si j'y suis avec Stéphane Hessel, donc, il y a eu quelques pépins.
Flight number 2, arriving from New York.
J'étais à New York au moment où on a créé l'État d'Israël.
Ah, 48.
L'année 48, à la fois, c'est mon année Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle on m'a fait parler, que, comment ça s'est passé en 45, 48. Mais j'étais là aussi pour la création et pour la Convention sur le génocide. Tout ça, ça a été cette année 48 qui a été prodigieusement importante. Et quand on a créé l'État d'Israël, j'avais un ami guatémaltèque, López Herarte, qui m'a dit « On vient de faire une grave erreur. »
Pourquoi ?
Écoutez, vous voulez rire, après la Shoah, il fallait un État pour les Juifs, et c'était la moindre des choses. Je suis très heureux qu'on ait cet État. » Il m'a dit « Oui, mais on a eu le tort de l'implanter dans une région qui est peuplée d'Arabes. »
Oui, puisque la phrase célèbre était...
Un peuple sans terre pour une terre sans
pour
peuple.
Pour une terre sans peuple, c'était le principe même du sionisme. Voilà on est avec Stéphane Hessel, on a commencé la conversation. Et ben voilà, on est déjà dans le sujet. Je demandais à Stéphane Hessel si la première fois qu'il était allé en Israël. Et voilà, alors là, on est à la création de l'État d'Israël et avec cette phrase qui était le fondement même du sionisme. Mais en 48 et dans les années qui ont suivi, la création de cet État d'Israël suscitait quand même un certain enthousiasme, un soutien.
Un énorme enthousiasme. Pour moi, c'était, je dirais, pour quelqu'un qui avait fait la guerre, qui avait été dans les camps de concentration, qui avait vu des Juifs venus d'Auschwitz dans un état épouvantable passer par Dora pour aller à Bergen-Belsen. J'étais donc de ceux qui disaient « il faut maintenant que les Juifs aient enfin un État ». Et c'est très bien. Et comme ils sont déjà nombreux en Palestine, comme les Anglais leur ont déjà promis depuis quelque temps qu'ils auraient un foyer juif, eh bien, il est tout à fait normal que ce soit dans cette région du monde, qui est la leur, historiquement, millénairement, que l'on fasse un État. Mais bien entendu, il faut, et les Anglais eux-mêmes y tiennent, parce que les Anglais ont une politique arabe, il faut que ce soit divisé équitablement, une partie pour les Juifs, une partie pour les Arabes. Et c'est ça qui a tout de suite dysfonctionné, puisque tout de suite les Arabes ne l'ont pas accepté, et que, il faut bien le dire, les sionistes en ont profité pour combattre contre les Arabes, ce qui était leur droit, mais pour, du coup, prendre beaucoup plus d'espace en Palestine que ce que les Nations Unies avaient préconisé. Les Nations Unies avaient dit 55 pour les Juifs, 45 pour les Arabes, et nous en sommes à 78 pour les Israéliens et 22 pour les Arabes.
22 pour les Arabes, pour les Palestiniens, et encore, c'est pas fait du tout. On voit bien que c'est pas fait.
Absolument. Sur les 22, déjà, à peu près 15% de ces 22 sont occupés par des colonies illégales, des colonies que les Nations Unies considèrent comme illégales. En plus, le mur qui a été construit en bouffe encore une partie. Donc maintenant, la disproportion, comme on aime à dire, est énorme entre ce qui reste aux Palestiniens pour faire un jour un État, ça va être très difficile, et ce que les Israéliens ont déjà accaparé.
Et d'autant plus aujourd'hui, toute cette mise un peu en perspective que vous venez de faire rapidement, on assiste à des heures dramatiques, impuissants que nous sommes, à Gaza. Et surtout avant-hier, on a vu cette école des Nations Unies, une école des Nations Unies, qui a été bombardée par l'armée israélienne, faisant 40 morts, dont un certain nombre d'enfants. Il y a deux autres écoles qui ont été également visées. Enfin, et puis il y a ces populations civiles qui sont... On voit les images, c'est absolument dramatique. Les quelques témoignages qui nous parviennent encore de Gaza, parce qu'on en a de moins en moins de l'intérieur, au fur et à mesure que les habitants perdent leurs ressources, l'électricité, les piles pour les appareils, etc. Ce qui font qu'on a de moins en moins de témoignages qui nous viennent de l'intérieur. On sait aussi que les autorités israéliennes refusent à la presse internationale de rentrer à l'intérieur du territoire, si bien qu'on a très peu de témoignages. Stéphane Hessel, comment vous percevez ça? Comment vous ressentez ça?
Je le perçois avec d'autant plus d'émotion et d'horreur et de scandale que j'ai été tout récemment là-bas à Gaza avec cette excellente organisation qui s'appelle La Voix de l'Enfant et qui est encore sur place maintenant à Jérusalem, à Ramallah, essayant de garder le contact avec Gaza et qui m'envoie régulièrement des informations sur ces horreurs que vous venez de décrire et qui continuent, qui n'ont pas encore pris fin. Et c'est ce qui me fait dire que l'opération israélienne contre Gaza est une contre-performance absolue. À quoi va-t-elle servir? Est-ce qu'elle va mettre un terme au bombardement de Sderot et des autres localités? Est-ce qu'elle va permettre de mettre une fin à l'action du Hamas? Mais non. Mais en revanche, elle va rendre l'image d'Israël, même en France, parmi des gens qui cependant ont plutôt de la sympathie pour Israël, ça va être de plus en plus difficile de ne pas être révulsé par la façon dont les Israéliens se comportent et l'armée israélienne se comporte à Gaza.
Vous connaissez le poids des mots, tout le monde sait que vous avez participé à l'élaboration du texte sur la déclaration des droits de l'homme ou des droits humains, enfin on connaît sens des mots. Hein, le poids des mots, là, il fallait que les mots soient très précis. Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'un crime contre l'humanité pour ce qui se passe à Gaza?
Je préfère employer le mot crime de guerre, qui me paraît plus lié à ce qui se passe, parce que c'est faire une guerre alors qu'on n'a pas d'ennemis organisé nationalement. On ne fait pas la guerre contre un État, on fait la guerre contre des miliciens, des militants, des gens qui veulent la libération de leur territoire. Et ce genre de guerre est criminel. Nous l'avons vu au Vietnam, faite par les États-Unis. Nous l'avons vu en Russie, faite contre les Tchétchènes. C'est exactement un crime de guerre. Je n'emploierai pas le mot génocide, qui veut dire que c'est une race ou une ethnie que l'on veut détruire. Les Israéliens ne veulent pas détruire les Arabes, ils veulent détruire les Palestiniens. C'est donc plutôt un politicide, c'est un mot qui est employé d'ailleurs par mon ami Warshawski pour définir la façon dont se comportent actuellement les Israéliens.
Quand on emploie un mot comme celui-là de crime de guerre, il faut être conséquent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mener une action pour que les responsables comparaissent devant une cour pénale internationale?
Ce serait absolument légitime, car les responsables connaissent le poids des mots. Ils savent ce que c'est qu'une destruction systématique organisée. Leurs ancêtres en ont été des victimes. Je ne dis pas qu'il faut comparer ce qui se passe à Gaza à ce qu'ont subi les Juifs en Allemagne du temps de la Shoah, mais la violence utilisée contre un peuple, l'impossibilité qui lui est faite d'avoir enfin cet État auquel ils aspirent depuis 60 ans, c'est vraiment un crime. Et un crime de guerre, lorsque on utilise des moyens militaires énormes, 5e armée du monde, contre une population qui n'a que des petites roquettes pour se défendre.
Notre impuissance, elle est celle aussi des Nations Unies. L'école qui a été bombardée est une école qui est sous le contrôle et sous la responsabilité, sous la gestion des Nations Unies. On sait tout le rôle de l'UNRWA à Gaza.
Oui.
Et de façon permanente, les autorités israéliennes s'assoient sur les résolutions des Nations Unies. Encore tout récemment, les États-Unis, non pas les Nations Unies, mais les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui demandait un cessez-le-feu immédiat. Alors, ça, c'est les États-Unis qui mettent leur veto.
C'est un des drames, c'est que les États-Unis se sentent tellement liés à Israël qui est leur principal allié dans la région, et dans une région où ils ont beaucoup d'ennemis à combattre. Ils ont aussi des alliés, mais ils ont des ennemis. Ils tiennent à avoir Israël comme ami. Donc ils profitent de leur situation privilégiée au sein du Conseil de sécurité, où ils disposent du droit de veto, pour protéger constamment les positions israéliennes. Heureusement, ils ont changé leur politique et pour la première fois, ils ont demandé un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Il y a donc là un progrès, de même qu'il y a eu ce progrès, de demander enfin un couloir humanitaire. Nous, avec les voix de l'enfant, nous le demandions depuis 5 jours déjà. Et enfin, peut-être, cette possibilité d'apporter au moins un concours à ces malheureux. Et vous, cher Daniel Mernet, vous parlez justement du rôle des Nations Unies, l'UNVRA. L'UNVRA est responsable d'à peu près 70% des habitants de Gaza qui sont dans un nombre considérable de camps. Ça devrait être une protection. Les Israéliens n'en tiennent aucun compte.
Alors, de la même façon que Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui a publié un livre « La paix, pas l'apartheid », vous essayez d'influencer, vous essayez de donner votre point de vue, vous allez là-bas, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens, et vous dites une chose, vous dites « si on a peur, si les journalistes, les chercheurs, les hommes politiques, les États, voire même l'Europe tout entière a peur, c'est qu'il y a ce chantage à l'antisémitisme. Il y a ce soupçon d'antisémitisme, il y a même parfois des accusations d'antisémitisme, et vous voyez là une des raisons de cette impunité israélienne.
Oui, oui, je suis en effet convaincu qu'une timidité politique à l'égard de l'État d'Israël est présente non seulement chez les Allemands, qui auraient quelques raisons d'avoir encore des restes de cette timidité, mais chez tous les Européens, et il faut dire que la France elle-même, du temps de Vichy, a contribué au tort fait aux Juifs. Pour cette raison, au lieu de traiter Israël comme n'importe quel pays qui a des intérêts à défendre, qui doit les défendre, qui doit défendre sa sécurité, mais qui doit le faire en accord avec le droit international et avec des appuis sérieux, mais des appuis objectifs, au lieu de cela, on le considère comme un État auquel il ne faut surtout pas toucher, parce que dès qu'on dit quelque chose de négatif sur la politique israélienne, on est tout de suite traité d'antisémite. Je suis persuadé que moi-même, aux yeux de beaucoup de mes amis juifs, je frise l'antisémitisme parce que j'ose dire que la politique israélienne me paraît criminelle et stupide à la fois. Criminelle, c'est sûr, et stupide parce que l'intérêt d'Israël, l'intérêt à moyen, long terme d'Israël, ne peut être que l'existence à côté d'Israël d'un vrai État palestiniens avec lesquels ils peuvent entretenir le partenariat qui ferait de cette région du monde, de ce Proche-Orient, une zone de paix et de prospérité.
Alors vous savez très bien ce qu'on vous répond quand vous parlez comme ça en Israël, du côté de ce qu'on peut appeler les faucons. On vous dit oui, mais très bien, vous avez raison, mais il n'y a personne en face. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous, on aimerait bien faire la paix, mais avec qui? Et qu'est-ce qu'on a en face? Des terroristes, c'est le Hamas, on ne peut pas parler avec ces gens-là. Encore tout récemment, le représentant du CRIF a dit « on ne parle pas avec le Hamas ».
C'est évidemment la meilleure façon de maintenir le statu quo pour les Israéliens, de dire nous n'avons pas d'interlocuteur. Rappelons que chaque fois qu'un interlocuteur s'est présenté, ils se sont rapidement organisés pour que cet interlocuteur-là n'est plus l'écoute des Palestiniens. Ils en ont suscité un autre. Quand c'était Arafat, ils ont suscité le Hamas. Maintenant que c'est le Hamas, voilà qu'ils essayent de donner la voix à Mahmoud Abbas, mais sans lui donner encore le moyen d'être au moins populaire auprès des Palestiniens, parce qu'il n'obtient rien en échange de sa son énorme bonne volonté. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un interlocuteur, mais on sait aussi que quand on veut régler un problème dur, il faut avoir pour interlocuteur le plus dur et pas le plus mou. C'est avec le plus dur que l'on traite. Si aujourd'hui Israël avait un contact avec le Hamas en lui disant « Quelles sont vos exigences pour arrêter les bombardements ? Quelles sont vos exigences pour traiter une paix entre Palestiniens et Israéliens ?» Je peux vous dire ce que répondrait le Hamas. Je le sais par mon ami Aubin de la Messuzière, qui en a parlé avec les dirigeants du Hamas. Ils veulent le retour aux frontières de 67. Ils ne parlent plus que de façon symbolique de la destruction éventuelle un jour de l'État d'Israël. Ils savent bien que c'est complètement chimérique et ils seraient prêts à appuyer les résolutions du Conseil de sécurité, le retour aux résolutions 242 et 338. C'est comme ça que la paix peut être faite aujourd'hui.
صحي على في يا موج الشوق مودي والريح بحس جريح بيوعدني ياخدني من حزني ويبعدني ويجيب لي حب حقيقي بحلم يا دنيا بلاش تصحيني
Quelle est la solution pour vous, Stéphane Hessel? Vous avez déclaré quelque part la solution des deux États israéliens et palestiniens est devenue caduque.
J'avais malheureusement, au mois d'avril 2008, au cours d'un voyage là-bas, rencontré des gens qui me disaient « ce n'est plus possible, les Israéliens ont trop démoli ce qui aurait pu être la création d'un État, ils ont fait trop de colonies, ils ont fait trop d'occupations, ce n'est plus possible, et maintenant il va y avoir un seul État, Israël, et cet État va avoir une population dont une forte fraction se trouvera en état d'apartheid. C'était un mot auquel je ne me prêtais pas. Et je continuais à dire non, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution humaine, ce n'est pas une solution historique, ce n'est pas une solution politique. Il faut en revenir aux deux États. Et aujourd'hui, c'est plus clair. Et maintenant, même parmi les Israéliens, Ehud Olmert lui-même a laissé entendre que la solution des deux États lui paraissait la solution. Mais quels deux États ? Alors là, nous entrons dans un autre problème. Quelles seraient les limites, les dimensions et l'organisation d'un État palestinien viable s'il ne dispose plus que d'une fraction du territoire toute étroite et qu'il n'a même pas sa capitale à Jérusalem ? Aucun dirigeant palestinien sérieux ne pourra traiter là-dessus avec Israël. C'est cela à quoi les dirigeants israéliens, faucons, appelons-les ainsi, et qui sont contents d'être faucons parce que le plus faucon aura le plus de chances d'être élu. Alors eux disent, oui, oui, il faudra un jour que les Palestiniens aient quelques petits lambeaux de territoire et que nous, nous puissions garder l'essentiel de nos colonies, notamment autour de Jérusalem. Quant à leur laisser la possibilité d'avoir leur capitale à Jérusalem, c'est pas possible. Jérusalem, c'est Israël et Israël seulement. Ils ne parlent même pas des chrétiens qui ont aussi un droit d'existence à Jérusalem.
Est-ce que c'est viable ce projet des faucons ? Vous avez une expérience considérable. Vous étiez au Vietnam, vous étiez en Algérie, vous avez vécu la décolonisation, les décolonisations. On sait très bien que les peuples colonisés finissent toujours par se libérer. Alors je ne dis pas, parce que je sais très bien ce qui est déjà en train de se dire dans certaines chaumières, je ne dis pas qu'il y a colonisation des territoires, mais je dis qu'il y a un fait colonial dans les territoires.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord avec cette définition ?
Absolument.
Est-ce que cet horizon est viable de réduire l'État palestinien à quelques petits bantoustans dans lesquels on pourrait faire un peu des casinos comme on l'a fait dans les territoires indiens des États-Unis ? Est-ce que c'est possible ?
Si on pense que ce sera un jour accepté par un dirigeant palestinien qui pourrait être soutenu par la population palestinienne dans son ensemble, on se trompe. On se trompe. Un tel projet, une telle façon de régler le problème, n'arrivera jamais à mettre un terme à la volonté forte des Palestiniens de continuer à se battre, de continuer à militer pour avoir un vrai État. Et ça se comprend. Ils savent trop ce que c'est que les Bantoustans. Et là, on retrouve le mot d'apartheid. Ils peuvent se dire que les Bantoustans, c'est ce qui a existé précisément en Afrique du Sud. Et que si on aboutit à des Bantoustans, eh bien alors là, oui, là, cette fois, on pourra parler d'apartheid. Et on sait qu'une apartheid se termine ou par des violences, ou par une reprise de conscience de ceux qui la mènent, c'est-à-dire par un changement radical dans la politique israélienne. Une véritable perestroïka, comme dirait mon ami Gorbatchev. Il faudrait que les Israéliens aient enfin conscience que cette voie vers des Bantoustans, ça ne mène à rien, pour eux, à aucune sécurité pour eux, et que leur sécurité dépend de l'existence d'un véritable État.
Stéphane Hessel, je voudrais qu'on parle maintenant d'ici, qu'on revienne dans notre petit hexagone, où on s'inquiète beaucoup, on dit « Oh là là, ces images sont épouvantables, on a vu la manifestation de samedi dernier, dans les rues de Paris, de soutien aux habitants de Gaza. On a vu aussi la manifestation le lendemain, dimanche, autour de l'ambassade d'Israël à l'appel du CRIF. Et je voudrais vous lire une phrase de Richard Prasquier, qui est le président actuel du CRIF.
Oui.
Il a déclaré ceci dans le Figaro du 5 janvier 2009. Je vous lis sa phrase. « Je peux vous dire que 95% de la communauté juive de France est en accord avec la politique d'Israël et avec ce qu'entreprend son armée. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez d'une déclaration comme celle-là ?
Je crains que M. Pasquier se trompe. Je connais beaucoup de juifs qui sont en désaccord profond l'UJFP par exemple, et beaucoup d'autres. Je suis entouré d'amis juifs qui manifestent contre la politique actuelle du gouvernement israélien. Mais je reconnais que la tendance naturelle des Juifs en France et d'un grand nombre d'entre eux est de vouloir d'abord soutenir ce pays, comprendre ce pays. Et il suffit que les dirigeants israéliens expliquent, comme le fait avec beaucoup de capacité, de conviction, Tzipi Livni ou Ehud Barak, que tout ce que nous faisons, nous, Israéliens, c'est de maintenir notre sécurité et de ne pas laisser 500 000 Israéliens à portée de quelques bombes et de quelques roquettes de la part du Hamas, pour que beaucoup de Juifs, peut-être pas une majorité, sûrement pas 95%, mais peut-être 50% se disent « il ne faut surtout pas dire de mal de ce pays qui nous est quand même extraordinairement proche et extraordinairement cher ». Moi, je leur réponds « ce pays qui m'est aussi cher à moi qu'à vous et dont je voudrais voir le succès dans une paix et une prospérité doit avoir des dirigeants qui soient capables de comprendre que la seule solution pacifique pour eux, c'est l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. »
Stéphane Hessel, je vous remercie, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On pourrait, là, on ne parle que de ce sujet-là, on pourrait parler de 1000 sujets avec vous, mais je sais que vous êtes célèbre pour ça, connu pour ça, pour votre... mais pour votre affection pour la poésie.
Ah oui.
On va finir avec ça. Et je vais vous lire quelques lignes d'un poète qui s'appelle Louis Aragon.
Ah oui, un grand poète.
Un grand poète. Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Rilke. Très joli.
Et ça, c'est d'Aragon.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'Aragon, dans cet extrait, évoque Rainer Maria Rilke, le chant triste des oies au-dessus des maisons des quais?
Peut-être que Aragon a compris le message fondamental de Rainer Maria Rilke, qui est un de mes poètes allemands favoris. Que voulait dire Rilke? Il disait « Nous sommes les abeilles qui butinons le visible pour le rendre invisible. » C'est-à-dire que notre rôle sur cette terre est de comprendre suffisamment ce qui nous entoure, d'en être suffisamment proche pour le préserver dans la façon dont nos vies successives contribuent à créer une invisibilité permanente de l'humain. C'est l'humain en nous, et donc je reviens par là à René Cassin et à ma déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'humain en nous que la poésie doit pouvoir sortir de sa gangue matérielle pour le rendre invisible et immortel.
Et en allemand, ça donne quoi?
Rainer
Maria Rilke?
Non, là je ne trouverai pas un vers. Je vous propose en échange un tout petit vers de Guillaume Apollinaire, restons français, qui dans le pont Mirabeau a ces deux vers. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court, que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs, je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent.
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Des soleils